J'introduis notre étude par très court passage dans l'Apocalypse, donc dans le livre de l'Apocalypse, dans les épîtres que le Christ glorifié dicte pour les églises, au chapitre 2 donc de l'Apocalypse. Je lis le verset 12 jusqu'au début du verset 14. Allez, à l'ange de l'église de Pergame écrit: voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, etc. Je lis ce verset parce qu'il évoque la vocation de témoignage éventuellement jusqu'à la mort, qui est celle des disciples du Seigneur Jésus. Il évoque un témoin fidèle, et nous allons considérer deux hommes qui furent des témoins fidèles en leur temps. Mais le début du verset 14 évoque aussi quand même certains déficits dans la vie de cette église de Pergame, que le Seigneur pourtant encourage et à certains égards félicite. Je signale ce point négatif parce que nous ne voulons pas faire dans la série des études que nous avons entamées, que nous continuons aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois de la géographie. Dans la culture catholique en particulier, les vies de saints, et le mot agio, c'est le mot pour les saints en grec, étaient pratiquement rien que des enjolivures, des présentations uniquement favorables, comme si ces saints avaient été absolument parfaits sur la terre. Et c'est mon intention, au moins, quand je vous relais ce que j'ai trouvé dans les livres à propos des témoins fidèles du Seigneur à diverses époques, de signaler quand même aussi sur quel point ils n'ont pas été tout à fait parfaits, à quels égards ils peuvent aussi nous réconforter si nous nous sentons tellement plus faibles qu'ils ne l'ont été. Je signalerai aussi, en ce qui concerne les deux que nous considérons aujourd'hui, deux ou trois points qu'on pourrait considérer comme négatifs. En tout cas, des points sur lesquels d'autres témoins nous permettent peut-être de faire un tout petit peu mieux. Alors, les deux témoins en cause, on les appelle très communément des pré-réformateurs ou des précurseurs de la réforme ou réformation, de celle de Luther et Calvin, dont nous parlerons dans les séances suivantes, celle du VIe siècle. Il y a au cours du Moyen-Âge des hommes qui annoncent la redécouverte du message biblique par les hommes qu'on a appelés les réformateurs. Alors on les appelle des pré-réformateurs. Ils ont préparé le terrain en quelque sorte. Ils ont ouvert la voie. Et les deux que nous allons considérer aujourd'hui l'ont fait aux alentours de l'an 1400. Fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. Il s'agit de l'anglais John Wycliffe et du tchèque Jean Hus ou Jean Hus, comme probablement, je ne suis pas absolument sûr, mais je crois que probablement on prononce en tchèque. Les deux sont liés parce que c'est en lisant les écrits de John Wycliffe que Jean Hus a découvert une bonne partie au moins du message qu'il a prêché et qu'il a ensuite consigné dans ses livres. Donc nous avons une solidarité, même historique, qui les unit. Et c'est comme Wycliffe qu'il a été condamné. Ils n'ont pas subi exactement le même sort, comme nous allons voir, Mais ceux qui les ont suivis, les chrétiens qu'ils avaient mis dans une voie, je crois, plus juste, du vrai christianisme, ont été persécutés semblablement, les uns et les autres, férocement. Et nous allons parler aussi un tout petit peu de ceux qui ont suivi. Nous avons parlé de John Wycliffe et des Lollards, c'est le nom qu'on a donné à ceux qui l'ont suivi, et de Jean Hus, et les Hussites, comme on les a communément appelés. Mais avant de vous raconter quel a été le schéma de leur vie à chacun et quelques grands points de leur enseignement, je crois qu'il est utile pour nous de nous rappeler la situation, précisément aux alentours de l'an 1400. Rarement, je crois, que siècle a été plus désastreux pour l'Europe que le XIVe siècle, celui donc qui s'achève en 1400. Nous avons, je pense, peu d'idées de ce que ça a pu représenter. Quatre épidémies de peste noire à 6-8 ans d'intervalle ont éclaté et la population de l'Europe a diminué de 30 à 40%. Vous vous rendez compte? Elle avait nettement augmenté par rapport à l'an 1000 pendant les trois premiers siècles du Moyen-Âge. Et nous nous sommes installés la dernière fois, vous vous rappelez, en novembre, c'était en novembre, nous nous sommes installés autour de l'an 1100. Il y avait un début d'essor, la population avait quadruplé pratiquement en Europe. Après les premiers siècles du Moyen-Âge, le nouveau Moyen-Âge, elle avait beaucoup diminué, beaucoup moins que dans l'Empire romain, pratiquement peut-être la moitié. Et puis elle avait recommencé à grandir avec une certaine prospérité à partir du XIe siècle jusqu'à quadrupler au début du XIVe. Et là, elle a diminué de 30 à 40%. J'ai un chiffre très précis que j'ai trouvé dans le livre de Pierre Chaunu, Le temps des réformes. En Provence, on comptait 70 000 feux, comme on dit, c'est-à-dire foyers, ménages. 70 000 feux en 1315. Il n'y en avait plus que 30 000 en 1377. En 60 ans, moins de la moitié des foyers qui subsistent. Dans toute l'Europe, il y a eu des villages entiers qui sont devenus simplement déserts. Ça a été épouvantable. C'est une épidémie de peste qui s'accompagnait d'infections pulmonaires et qui était ultra contagieuse et ultra rapide. Quand on manifestait les premiers symptômes, souvent c'est dans les 24 heures qu'on mourait. C'était effroyable. Et ça, c'est un premier fait qui concerne le XIVe siècle, avec les conséquences économiques, culturelles, qu'on peut deviner. Ça a aussi été en même temps la guerre de 100 ans pour la France, ce qui est aujourd'hui la France. Donc, des ravages supplémentaires à cause de cette période instable avec des bandes de brigands, outre les armées plus ou moins régulières, des destructions sans fin. C'est la période de la guerre de 100 ans qui va se terminer à peu près, c'est un peu plus 100 ans, vers le milieu du XVe siècle. Donc, vous vous rendez compte que ça peut représenter la menace musulmane. On n'y pense plus tellement. On est très conscient d'une menace musulmane nouvelle. Mais pendant des siècles, et pendant cette époque en particulier, l'Empire ottoman, qui était une grande puissance, a menacé l'Europe. Et il s'était déjà, avant même de prendre le dernier bastion à Constantinople, en 1453, il était déjà très présent dans les Balkans. Et la Hongrie a dû batailler pour échapper à la mainmise des sultans. Donc, vous vous rendez compte de ce que pouvait être cette situation. Deuxième trait que je mets en valeur, l'importance mondaine de l'Église. Là, de nouveau, nous nous rendons, je crois, mal compte de la puissance politique, sociale, économique que pouvait représenter l'Église catholique avec le pape à sa tête. J'ai lu dans les livres que j'ai lu pour me préparer que en Bohême, le pays des Tchèques, 30% du patrimoine foncier était aux mains de l'Église. Et je pense que c'était pas très spécial. C'était un peu comme ça partout. Alors avec des éléments très positifs, hein, ce sont les abbayes, ces grandes abbayes, qui ont défriché, qui ont asséché des marécages, qui représentaient une puissance économique prodigieuse, avec tout le système de santé, tout le système scolaire, qui était de l'Église. Tout ça, c'était de l'Église. Et les abbés et les évêques étaient de grands seigneurs. Et le pape était sans doute un monarque de la puissance temporelle, rien qu'à considérer la puissance temporelle du roi de France, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, des rois les plus puissants de l'Europe. Puissance mondaine de l'Église qui entraînait, il faut bien voir cette conséquence, une rivalité avec les autorités politiques civiles. Du fait que l'Église était d'une telle puissance dans le champ mondain, elle était rivale des seigneurs, des rois, et sans arrêt il y avait des disputes. Et le pape avait des armées pour guerroyer contre l'empereur, contre tel roi, etc. C'était la dispute perpétuelle avec deux points très sensibles et liés entre eux. Et il y avait la question des redevances au Saint-Siège que le Saint-Siège réclamait de tout le pays. Alors les rois n'étaient pas très contents de voir toute une partie des impôts qui partaient vers la cour pontificale. Et en plus, il y avait bien sûr l'aspect des dîmes pour tout le système catholique établi, l'entretien des évêques et toutes les œuvres aussi, etc. Mais il y avait cet aspect fiscal qu'il comptait énormément, une rivalité. Et il y avait également la querelle des investitures. Les évêques étant de tels seigneurs, qui avait le droit de les investir de leur évêché? C'était un droit que le pape réclamait, mais que lui contestaient les autorités civiles dans ces divers pays. Et donc, vous avez des disputes perpétuelles entre les autorités de l'Église et les autorités des royaumes qui progressivement prenaient une conscience nationale qui n'avait pas existé au départ, hein, mais peu à peu, il y avait un sentiment d'identité française, par exemple, ou anglaise, qui n'avait pas existé précédemment. Ça, c'est un deuxième grand trait. Troisième grand trait de cette période, le très mauvais état de cette Église, malgré sa puissance, ou peut-être aussi à cause de sa puissance, et des rivalités internes que cela causait. En 1309, donc au début, le pape a déplacé son siège de Rome à Avignon. Alors ça nous semble un peu bizarre, Avignon, mais j'ai lu cette remarque, et je pense qu'il faut la prendre pour un avis d'expert. Avignon était bien mieux placé que Rome par rapport à la chrétienté d'alors. Avignon était nettement plus central, à proximité des routes principales, et donc la papauté s'est déplacée à Avignon, et elle y est restée au XIVe siècle. Plusieurs papes se sont succédés à Avignon avec un palais des papes grandiose. Et pendant cette période, les papes étaient la plupart français. Il y avait toute une série de papes qui venaient du Limousin. Et le roi de France le soutenait, parce que c'était quand même avantageux pour lui d'avoir une influence plus directe sur la politique des papes à ce moment-là. Et le système de la bureaucratie pontificale s'est énormément alourdi et perfectionné pendant ce XIVe siècle, avec aussi un progrès dans la faculté d'extorquer les dîmes, toutes les redevances que le pape réclamait. Ça, ça a été une évolution du XIVe. Les grammaires, le pape à Avignon, si le pape a ses prérogatives, en théorie catholique, c'est parce qu'il est l'évêque de Rome, que, à l'époque on disait, quand je donne le début avec Pierre, avait été évêque de Rome, et qu'il était successeur de Pierre. C'est en tant que successeur de Pierre, évêque de Rome, que le pape prétend à ce statut de vicaire du Christ et de souverain pontife auquel il prétend. Alors il y avait bien des gens quand même qui trouvaient qu'à Avignon c'était pas normal. Et entre autres Sainte Catherine de Sienne, qui a eu une très forte influence. Elle n'était même pas religieuse. Elle appartenait à un tiers ordre, c'est-à-dire associée, mais elle a eu un tel rayonnement, cette femme, qu'elle a exercé une forte influence jusque dans le domaine politique. Et elle réclamait le retour du pape à Rome. Et en 1377, le pape, je crois que c'était Grégoire XI, si je me rappelle bien, a décidé de retourner à Rome. Rome qui avait été dépeuplée par la peste, qui avait été ravagée par pas mal de razzias, qui était une ville en assez mauvais état. Mais il est retourné à Rome. Il y a vécu quelques mois, juste pendant ses marques, et puis il est décédé. Alors les cardinaux, le sacré collège, a élu un successeur qui a pris le nom d'Urbain V, papa. Mais très peu de temps après son élection, il a donné des signes évidents de dérangement mental. Voilà, vraiment il se montrait comme fou. Alors, plusieurs cardinaux, une douzaine d'abord, on dit non, on ne peut pas continuer. Ils ont réussi à convaincre pas mal de leurs collègues. Ils ont dénoncé dans ce Grégoire, dans cet Urbain V, un antichrist, je cite un antichrist, démon, apostat, tyran. Ils se sont réunis à Fondi en Italie et ils ont élu un successeur qui a pris le nom de Clément VII et qui lui est revenu à Avignon. Mais Urbain VII n'a pas lâché pour autant. Et il a continué d'ailleurs de façon sanglante. Il paraît qu'il a torturé et exécuté plusieurs des cardinaux qu'il avait lui-même nommés. Donc deux papes rivaux, le pape d'Avignon et le pape de Rome. Alors, le pape de Rome a eu un successeur, etc. Et Clément VII a eu des successeurs aussi à Avignon. Et donc, c'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. L'Église, la chrétienté s'est trouvée partagée entre deux papes, l'un à Avignon, l'autre à Rome, soutenus l'un et l'autre par certains états de la chrétienté, selon leurs intérêts. Alors la France soutenait celui d'Avignon, bien sûr, etc. Vous voyez. Et donc ça a duré, ça a duré. Vous rendez compte les dégâts dans l'image du christianisme. Alors, ces dégâts étaient de plus en plus évidents. Il y a de plus en plus de cardinaux qui ont fait dissidence par rapport à leur camp, soit le camp d'Avignon, soit le camp de Rome. Et en 1406, ils se sont réunis, ils étaient assez nombreux, à Pise, ils ont réuni un concile à Pise, qui semble avoir été assez représentatif. Il y avait quand même vraiment beaucoup d'évêques, de docteurs et de les cardinaux, une bonne partie de la chrétienté. Et ils ont prononcé la déposition des deux papes d'Avignon et de Rome, et ils ont élu un autre qui a eu rapidement un successeur, le premier donc. Il s'appelle Grégoire. Non. Je cherche son nom simplement. Oui, Alexandre V. Il s'appelle Alexandre V, mais ce n'est pas lui qui va être très important parce qu'il va mourir assez bientôt. Et il va avoir comme successeur, à partir de 1410, un certain Jean XXIII. Écoutez bien, ou Jean 23. Donc, cette décision de Pise, elle est reçue par un certain nombre de gens, mais ni le pape d'Avignon, ni le pape de Rome ne sont d'accord. Et le résultat, donc, c'est qu'il y a trois papes rivaux au lieu de deux. Après ce récit de Pise, qui en 1410 est un successeur pour Alexandre V, lequel successeur est un drôle de bonhomme. Il est cardinal, Baldassare Corsa. Mais en fait, il est élu par cause de ses qualités militaires. C'est un vrai condottiere qui s'est illustré déjà dans le combat, et autrement aussi, il paraît que pendant un temps, il était légat à Bologne et qu'on lui prêtait au moins 200 conquêtes féminines. Voilà le genre d'homme qui est choisi. Ce genre 23, donc, et le pape de Pise, qui a comme rivaux le pape Benoît XIII, qui est un espagnol d'Avignon, et le pape Grégoire XII, qui est le pape à Rome. Et c'est la lutte entre ces trois. Finalement, c'est l'empereur qui lui-même a une histoire extrêmement compliquée, là je ne sais même pas de la raconter, Sigismond, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui trouve vraiment que la situation ne va pas, et puis espérant que s'il la règle, il va lui acquérir du prestige, réussit à convoquer un concile dans la ville germanique de Constance. Jean XXIII aurait voulu que ce soit en Italie, il lui était à Pise, mais non, la volonté de l'empereur prévaut, et un concile se réunit en 1414 à Constance, donc au bord du lac de Constance. Et c'est un concile où ceux qui ont le plus de poids, ce sont les théologiens, contrairement à ce qui est le plus courant parmi les conciles. La hiérarchie catholique s'est tellement déconsidérée avec toutes ces luttes que ceux qui gardent un grand crédit moral, ce sont surtout les docteurs. Et le concile de Constance va être dominé par Pierre d'Ailly et Jean Gerson, qui avait été son élève, qui était le chancelier de l'Université de Paris. L'Université de Paris est à l'époque la plus prestigieuse, et donc ils vont avoir un très grand rôle à Constance. Alors, le Conseil de Constance se réunit, se déclare avoir une juridiction universelle même sur le pape, ce qui va animer ce qu'on a appelé par la suite le conciliarisme, rivalité entre les conciles et le pape. Et il dépose les deux papes d'Avignon et Jean XXIII et de Rome. Alors, celui qui résiste le plus longtemps, c'est celui d'Avignon. Il va falloir vraiment attendre 1417 pour que tous ses soutiens finissent par le lâcher et qu'il soit obligé de céder. Celui de Rome a cédé très vite. Il a accepté de devenir doyen du Sacré Collège, revenir cardinal seulement. Bon, Jean XXIII, lui, essaie de lutter, mais finalement, il est obligé de s'enfuir. Il va être emprisonné plusieurs années. Ça n'empêchera pas, après quelques années d'emprisonnement, après qu'il a été déclaré antichrist, etc., par ce concile, qu'il soit réintégré comme cardinal-évêque, quelques années plus tard. Mais bon, vous voyez de nouveau la situation de cette église à ce moment-là. Et un nouveau pape, donc, est élu par le concile de Constance, qui prend le nom Martin V, et qui lui va se retrouver seul pape, en tout cas pendant un bout de temps, pendant 10 ans, un peu plus tard. Il va y avoir de nouveau un rival nommé par un autre concile, mais ça ne va pas durer vraiment. Mais vous voyez à quel point la situation a été tourmentée. Et nous allons la rencontrer dans l'histoire de nos deux témoins de l'Évangile. Et puis, encore dernière précision sur ce contexte de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Il y a d'abord une obsession de la mort, après la peste noire. C'est le temps de la danse macabre, des processions de flagellants qui se donnent des coups de fouet jusqu'au sang pour implorer la miséricorde divine, sans doute des éléments de masochisme qui s'y mêlent. Aujourd'hui, dans le schisme musulman, nous avons aussi ces phénomènes des processions où les dévots se meurtrissent. Mais là, c'est en liaison avec cette obsession de la mort qui avait tellement frappé. Donc il y a cet élément-là. Mais ce n'est pas le seul. Il y a une évolution de la théologie universitaire, et elle compte aussi, qui sépare de plus en plus la foi de la raison, et qui du coup, d'une part, glorifie la foi comme une soumission aveugle à l'autorité de l'Église. Ça, c'est une tendance au point. Mais qui d'autre part aussi dit qu'il faut revenir au Père de l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui va amorcer un élément de la vie de Wycliffe et de Huss, mais qui va aussi préparer la réforme. Il y a aussi dans la piété, avec une séparation de plus en plus grande des prêtres et du peuple des fidèles, l'adoration de l'hostie qui se répand. L'hostie qui est censée, par la transsubstantiation, devenue dans sa substance le corps même de Jésus-Christ, dans un sens tout à fait littéral, fait l'objet d'une adoration. Elle est placée, vous savez, sur l'autel dans les églises catholiques, dans le tabernacle. Ils appellent le mot tabernacle. Il y a parfois des catholiques qui s'imaginent l'église du tabernacle. C'est un lien avec cette coutume catholique qui aujourd'hui est moins présente. Mais là, il y a une croissance de cette vénération, adoration de l'hostie dans le catholicisme. Et puis, il y a aussi, dernier trait que je mentionne, ce qu'on appelle la dévotion moderne. Une forme de piété qui se répand et qui va aussi préparer la réformation et jouer pour le ministère de Wycliffe et de Jean Hus. L'épicentre, c'est plutôt les Pays-Bas. C'est une piété beaucoup plus individuelle, liée à la lecture. Une nouvelle classe est en train de se constituer, la classe qui est celle des marchands, des artisans qualifiés, une classe urbaine qui au début du Moyen Âge n'existait pas simplement. Il y avait les abbayes, il y avait de tout petits villes, bourgs, villages, pas grand-chose, les seigneurs et le bas peuple. Mais là, vous avez une classe nouvelle qui se constitue et qui sait lire. Pierre Chaudu évalue que vers l'an 1000, peut-être 1 à 2% maximum de la population qui savait lire et écrire. Là, maintenant, on monte, pense-t-il, au moins à 10%. Et dans ces pays très marchands, comme les Pays-Bas, les pays du Rhin, sans doute un peu plus. Et ces gens sont capables de lire l'écriture, de lire des livres de piété, de réfléchir, leur sens critique s'éveille, ils ont une piété d'un type nouveau, individualisé, un livre de piété qui date de l'époque que nous considérons, qui vient de ce mouvement, c'est l'Imitation de Jésus-Christ, livre de piété qui a une influence énorme. Et cela aussi, ça fait partie du tableau. Alors, le tableau étant brossé rapidement, John Wycliffe, alors on écrit son nom de manière diverse. Aujourd'hui, je crois quand même que la plus longue orthographe prédomine, le W-Y-C-L-I-2-F-E. Mais vous le trouvez parfois écrit, oui, avec I, Cliff, avec seulement un F, Clef. Oui, bon, c'est pas important. Hein. Les noms anciens, les noms du Moyen-Âge, s'écrivaient même dans le même document juridique de façon différente parfois. On le constate. Donc, John Wycliffe et les Lollards, qui est le nom qu'on a utilisé pour ses disciples. Il a eu une vie relativement calme par des temps si troublés. Il naît en Angleterre, dans le comté de York, vers 1324, de parents plutôt aisés. Alors il se dirige vers l'état de clerc, avec connaissance en droit, c'était celle qui permettait d'accéder aux positions les plus intéressantes, et souvent faisait des études dans l'un des autres droits, le droit canon de l'Église et le droit civil du royaume. Donc il fait de très bonnes études à Oxford, qui est l'université la plus réputée, et il est appelé à y enseigner assez vite. Il y enseigne, il paraît qu'il a un grand succès comme professeur. C'est un homme qui sait très bien exposer les choses. Mais il a d'abord le profil d'un juriste. Et il se rend utile au roi, se fait remarquer, en défendant les intérêts de l'Angleterre dans un procès que lui font les papes, le pape d'Avignon à l'époque, à propos de l'impôt ou de la redevance. Le royaume d'Angleterre ne paie plus une certaine redevance depuis plusieurs dizaines d'années, le pape la réclame, et voilà, on envoie les juristes en discuter. Donc il se fait remarquer par ses capacités dans ce domaine et par sa lutte contre les prétentions en cette matière des papes. Et on fait appel à lui de nouveau en 1374 pour discuter, alors ça se passe même en Belgique, je crois, si je me rappelle bien, pour discuter avec des représentants du pouvoir pontifical de nouveau. Il fait partie d'une délégation anglaise pour discuter de ces points de désaccord. Jusque-là, pas grand-chose qui annonce la réforme. Mais ces débats avec les représentants du Saint-Siège le conduisent à une réflexion toujours plus approfondie sur l'Église, sur le pouvoir du pape, sur le pouvoir qui doit s'exercer aussi par délégation divine dans les États. Et peu à peu, il exprime ce qu'il croit discerner dans sa prédication, car il prêche aussi, hein. Il est apprécié comme prédicateur, et dans des livres théologiques qui vont connaître une très large réception. Cette réception qui va s'étaler donc sur une vingtaine d'années, cette réception, on a le souci. Il a le souci de faire connaître ce qu'il croit découvrir de vrai à propos de l'Église au peuple des fidèles. Et pour cela, il entame une traduction de Bible. Alors il la traduit non pas du latin, car il n'est pas très expert dans ses langues originales, mais du latin simplement, mais il la traduit dans le langage du peuple. C'est à cause de ce travail de traduction que l'association de traduction biblique dont vous avez sans doute parlé s'appelle Wycliffe, l'association Wycliffe. C'est par hommage à ce premier grand traducteur de la Bible en anglais courant. Il ne réussira pas à achever tout à fait avant de mourir, mais il avait deux associés qui vont achever le travail 2 ans après sa mort. En même temps, il forme des personnes capables de diffuser le message. Il crée une sorte d'école pour ceux qu'il appelle les pauvres prêtres, car ils vont adopter, contrairement aux hiérarques de l'Église, un style de vie très simple, dépouillé, de pauvreté. Il envoie des jeunes hommes qu'il a formés, qu'il appelle les pauvres prêtres, dans toute l'Angleterre, qui diffusent son message, qui diffusent aussi ses livres. Il écrit sur l'écriture, il écrit sur l'Église, il écrit aussi pour interpréter les signes des temps, car il vient à la conclusion que le pape c'est l'Antichrist. On n'est pas le premier à le dire au Moyen Âge. Il y a eu des mouvements dissidents, mais lui peut appuyer cette accusation, cette conviction, sur une étude beaucoup plus fouillée, beaucoup plus systématique. Alors les tenants des positions acquises l'attaquent. Les vues qui viennent de ses livres sont condamnés à diverses reprises, et tout spécialement vers la fin. Mais comme il a quand même la protection royale, vers la fin, elle est moins, beaucoup moins vigilante. Mais il a été le serviteur de la royauté. Donc il échappe pratiquement, lui, aux conséquences des condamnations. Ses écrits continuent, mais qu'ils s'étaient déroulés sur la place publique par certains représentants de l'autorité, ses écrits continuent à se diffuser, et lui-même peut mourir tranquillement dans la cure qu'on lui a donnée, une cure à la Tombeuf. Et il meurt en 1384, donc soixantaine d'années. Pour la date de naissance, c'est aux environs de 1324. On n'a pas une date de naissance parfaitement sûre. Il a eu une vie assez complète. Alors, qu'est-ce qui a fait l'objet de son enseignement plus particulièrement? Quels sont les grands points? On l'a appelé le docteur évangélique. À l'époque, c'est la mode de donner un surnom au théologien de marque. Alors, Thomas d'Aquin, par exemple, au XIXe siècle, a été appelé le docteur angélique. Puis, on l'a appelé le docteur évangélique. Pas pour rien. Son dernier ouvrage, qu'il n'a pas tout à fait achevé, il s'appelle Opus Evangelicum, l'œuvre ou l'ouvrage évangélique. Oui, il a mis l'accent sur l'évangile. Alors, il a commencé par s'opposer à la prétention du pape d'être l'autorité suprême dans le domaine temporel. Oui, Dieu a délégué une partie de son autorité, pas l'autorité plénière que le pape et la hiérarchie catholique prétendent avoir, mais il a délégué une partie de son autorité. Mais pour le temporel, c'est au magistrat. C'est au roi, selon Romains 13, ce n'est pas au pape. Donc il s'oppose à cette confusion du temporel et du spirituel qui a caractérisé une bonne partie de ce Moyen-Âge. Et puis d'autre part, il se rend compte que la délégation d'autorité que les évêques peuvent prétendre détenir, elle est limitée. Et il en vient par la réflexion sur ce qu'est l'Église à dire, mais l'Église, ce n'est pas ce grand système d'évêques couronné par le pouvoir et la bureaucratie de l'évêque de Rome. L'Église, c'est la congrégation des fidèles. L'Église, c'est le corps des prédestinés. Il est aussi pour des raisons philosophiques, là je n'ai pas le temps de développer, mais c'est lié. Il est revenu à saint Augustin, il est augustinien dans sa théologie. Il est d'ailleurs là aussi héritier d'un autre qui s'appelait Thomas Bradwardine, qui a été archevêque de Canterbury, mais 40 jours seulement, il est mort, emporté par la peste. Qui avait été un mathématicien qui a compté dans l'histoire des mathématiques, mais en même temps un théologien revenant à saint Augustin, affirmant l'élection divine inconditionnelle, la prédestination, et Wycliffe est aussi un héritier. Par rapport à ce Bradwardine, il a défini l'Église comme le corps qui est formé par l'élection. Et donc s'oppose à la logique catholique d'une continuité, l'Église continue l'incarnation, l'Église a toutes les prérogatives du Seigneur. Et ce point-là, donc, c'est le premier point qui va évidemment l'opposer à tout l'ordre établi de l'Église. C'est pour ça qu'il fait réagir et qu'on condamne tant de ses vues. Ce qui donne rigueur et vigueur à la distinction qu'il fait entre l'Église et le système romain, c'est le recours à l'écriture. Deuxième accent extrêmement fort. Je lui résume la chose en disant, on disait Dieu, l'écriture et l'Église sans scansion. Ça veut dire, on ne scandait pas, on ne faisait pas d'intervalle. Dieu, l'écriture, l'Église, une seule réalité, dans la continuité entière. L'Église décide ce que dit l'Écriture, elle est l'expression de l'autorité de Dieu. Avec Wycliffe propose une pause. Dieu et l'Écriture, et puis l'Église. De telle sorte que l'Écriture peut devenir juge de l'Église. On peut recourir à l'Écriture pour dénoncer les déviations de l'Église. Il a écrit en 1318 un écrit sur la vérité de l'Écriture sainte, en 1381, 12 thèses sur l'Écriture, etc. Et il a pu écrire, là aussi c'est une citation que j'ai relevée, « C'est la Bible qui juge et discrimine ceux qui doivent être reçus comme catholiques et les autres. » La vraie catholicité, au sens positif du terme, c'est l'Écriture qui la détermine. Et j'ai encore une citation. « S'il y avait 100 papes, et si tout moine d'un ordre mendiant était cardinal, il ne mériterait la confiance que dans la mesure où il s'accorderait avec la Bible. » Et il insiste sur la suffisance de la Bible. Non seulement c'est la Bible qui est l'autorité suprême, mais elle suffit pour déterminer les questions qui concernent la foi et les mœurs. On peut y recourir et on peut comprendre ce qu'elle dit. Ça, c'est le deuxième grand trait de son enseignement. Et le troisième, alors, est le suivant. Le moyen par lequel l'Église catholique romaine pontificale usurpe les prérogatives divines et prétend détenir tout le pouvoir divin, de telle sorte qu'elle peut aussi décider dans le domaine temporel, c'est fondamentalement le système sacramentel. L'Église est dépositaire de la grâce de Dieu et elle la distribue par le moyen des sacrements, qui sont des actes de l'Église. La logique de l'emprise qu'a le catholicisme sur toute la société à l'époque, c'est l'efficacité qui est attribuée aux sacrements. Car il y a une véritable angoisse de la damnation, de l'enfer. C'est le sacrement qui peut en délivrer, et c'est l'Église qui en use. C'est l'arme de la puissance ecclésiastique à l'époque. Je pense qu'on peut vraiment résumer les choses ainsi. Et le sacrement, entre tous les sacrements, on l'appelle le Saint-Sacrement, c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est la messe. Et ce qui symbolise cette autorité de l'Église, c'est que le prêtre, par son ordination, reçoit le pouvoir de faire advenir sur l'autel le vrai corps de Jésus-Christ. Le pain de l'hostie est transsubstantié, il y a toujours l'apparence du pain, mais ce n'est plus du pain. C'est le corps de Jésus-Christ qui a remplacé la substance du pain. Il y a eu transsubstantiation. Que veut dire le mot? Alors c'est le corps même de Dieu le Fils, de mon adoration. Une fois que ce qui était du pain a été ainsi transsubstantié, le corps de Dieu, il hérite l'adoration et on le met dans un sanctuaire, qui est ce tabernacle sur un autel. Voilà ce qui est sans doute la clé du pouvoir du système catholique à cette époque, en tout cas. Et appuyé sur l'Écriture, Wycliffe se rend compte que ça ne tient pas. Que si l'on veut justifier ce que l'on croit par l'Écriture seule, alors il n'y a pas place pour une telle doctrine de la transsubstantiation, que c'est une interprétation tout à fait inadéquate des textes, et qu'une prétention si énorme ne peut pas du tout être justifiée. Alors il dit, oui, le corps de Jésus-Christ est présent, Jésus a dit ceci est mon corps, mais sacramentalitaire. Et là, le mot sacrement a certainement chez lui le sens qu'il avait, qu'on trouve encore dans la scolastique, de signe. Il est là sous mode de signe. C'est le signe de son corps qui est là. Il est là spirituellement, il est là quant aux effets, celui qui prend le signe du corps de Christ dans la foi au sacrifice du Christ, il en reçoit en effet le bénéfice. Il goûte à la grâce. Donc il affirme cette doctrine qui s'oppose à la transsubstantiation d'une présence spirituelle du corps de Jésus-Christ. Et étant donné ce qu'était dans la piété, mais de presque tous les fidèles, dans un climat de peur de l'enfer en même temps, de ce qu'était la piété catholique de l'époque, c'était là une transgression majeure. Vraiment là, et il secouait les colonnes de ce temple. Et c'est tout spécialement contre ce qu'il a dit de la messe et de l'Eucharistie, que les condamnations vont pleuvoir sur lui. C'est chez lui une doctrine qui est claire. Les chrétiens qui vont le suivre, éveillés à cette doctrine par les pauvres prêtres, vont répondre ce même message avec accent sur l'Écriture. Il va y avoir un épisode qui malheureusement va nuire à la diffusion. Il va y avoir une grande révolte paysanne, ce qu'on appelait les Jacqueries en France, hein, qui va avoir lieu en 1381, peu avant sa mort, et bien sûr ses adversaires vont mettre sur le compte, parce qu'ils critiquaient les abus de la richesse de l'Église, des pouvoirs des prêtres, etc. Donc, voilà, ça a servi à une révolte sociale, et bien sûr, tous les tenants d'autorité vont accuser l'influence du wycliffisme, de troubles publics, l'assimiler à un message de révolution sociale. Ce qu'il était à certains égards, oui, on ne peut pas tout à fait le nier, n'est-ce pas? Les choses étant tellement liées, le temporel, le spirituel à cette époque. Mais malgré cela, ses disciples sont extrêmement nombreux et vont alors être persécutés atrocement, avec beaucoup de martyrs jusqu'à la mort. Il y a une loi, par exemple, qui est passée en 1401 à Londres, qui s'appelle brûler l'hérétique. Brûler l'hérétique. De hérético comburendo. Et je trouve intéressant, j'ai noté ça au passage, qu'un des persécuteurs, hein, Reginald Peacock, choisit de les appeler les Bible Men, les hommes de la Bible. Très, 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 très significatif. Et il fait la liste de leurs erreurs, parmi lesquelles j'ai noté qu'ils attaquent le culte des images, ils attaquent la hiérarchie, la messe, et puis ils trouvent que la racine de tout le mal, c'est que, selon eux, ne peut être présenté comme loi de Dieu que ce qui est dit dans l'Écriture, dont tout chrétien ou chrétienne humble peut trouver le sens. Ah, voilà ce qui est abominable. Voilà ce que les persécuteurs vont s'efforcer de réprimer. Même je trouve Chaumur un peu trop pessimiste à cet égard. Je pense que dans ce livre, qui est très intéressant, que j'ai relu, et le temps des réformes, et je me suis dit, ah oui, ce que c'est stimulant, ce que c'est. En même temps, j'ai trouvé, plus que quand je l'avais lu la première fois, qu'il est un peu flagrandeur quand même à l'égard du catholicisme. C'est pas pour rien qu'ensuite il a eu sa rubrique assez catholicisante pour Radio Courtoisie. Il y a, je pense, un peu cette note. Il ne voulait pas apparaître comme un historien protestant pour le grand public français. Et alors, je crois qu'il diminue l'importance des Lollards pour la Réformation et peut-être pour tout le christianisme anglais, puisqu'à nos jours, il me semble que je perçois une continuité. Si l'aile évangélique du christianisme a été fortement représentée dans toute l'histoire de l'Angleterre, et de l'Écosse aussi d'ailleurs, je pense que ce n'est pas sans lien avec cet héritage de Wycliffe. et cette persistance, malgré la persécution, de l'Hollands, qui se sont reconnus dans la réforme lorsque celle-ci a eu lieu. Deuxième, oui, j'accélère, mais c'est bon, je suis dans le temps. Jean Hus et les Hussites, qu'on a appelés aussi les frères de Bohême, parce que Jean Hus, donc, est une personnalité de la République tchèque d'aujourd'hui, dont on appelait la région géographiquement la Bohême. Les Tchèques habitent la Bohême. Jean Hus est un jeune étudiant à l'université de Prague en 1398, donc tout à la fin du XIVe siècle, et il découvre un écrit de Wycliffe. Et il s'écrit « Oh Wycliffe, Wycliffe, tu feras tourner bien des têtes !» Jean Hus est né en 1369, donc évidemment, il est encore très très jeune. Lui est issu d'une famille de paysans pauvres. C'est tout à fait le milieu populaire. Et probablement que son nom est une abréviation du nom de son village, Husinec. Hus. Mais ça veut aussi dire une oie en tchèque, paraît-il. Il a certainement été touché, en même temps qu'il commençait de lire Wycliffe, par un mouvement réformiste antérieur à Prague, dont on ne. Moi, je ne savais rien avant de lire ce que j'ai lu pour ce matin. Il y avait eu, quelques dizaines d'années auparavant, un mouvement de tendance, revenir à l'écriture, être plus simple, avec un certain Milich, un certain Mathias de Janov, et un riche adhérent avait fondé à Prague une chapelle pour la prédication en tchèque. Ça, c'est antérieur à Jean Hus, une chapelle qui s'est appelée Bethléem, chapelle de Bethléem, en référence simplement au Bethléem de la Bible, et peut-être, il me semble, c'est la maison du pain de vie. C'est une grande chapelle. J'ai lu qu'elle pouvait contenir jusqu'à 3000 personnes. Des gens qui devaient être très serrés, mais sans son nom. Ils devaient s'y connaître en acoustique, quand même. Hein. 3000 personnes dans cette chapelle de Bethléem. Le jeune Jean Hus est certainement touché par leur influence. Et la différence avec ce mouvement antérieur pour lui sera surtout qu'il va s'appuyer sur les écrits de Wycliffe, oui, et aussi qu'il va s'appuyer sur le pouvoir royal, ce que ce mouvement, qui était purement populaire, n'avait pas fait. Purement populaire et dévotion moderne, auparavant. Alors en 1400, Jean Hus devient prêtre. Il est déjà en 1420, parce que c'est quand même un étudiant de belle qualité, doyen de la faculté des arts, c'est-à-dire des lettres. Et surtout, en 1402, il devient prédicateur de la chapelle de Bethléem. Et il a de très grands dons d'orateur populaire. Donc il va secouer Prague, surtout comme un tel. Grand succès. Parmi les éléments du succès, d'ailleurs, j'ai noté ça au passage, il y a la composition de cantiques en tchèque. La chapelle de Bethléem, une chapelle où on chante de nouveaux cantiques en tchèque. Une des mesures que les adversaires vont prendre, c'est d'essayer d'interdire le cantique en tchèque. Et ça, c'est tout à fait typique. Le chapitre... excusez-moi. Il a un ami qui s'appelle Jérôme de Prague, qui est à peu près du même âge que lui, personnalité flamboyante, fougueux, qui étudie dans plusieurs universités d'Europe, y compris Paris d'ailleurs, et qui passe... 2 ans, je crois, à Oxford, et là, il découvre les écrits de Wycliffe. Et il les rapporte à son ami Jean, qui s'en nourrit dans ces années-là. Alors, le chapitre de la cathédrale voit le danger venir et condamne. Mais l'archevêque, qui s'appelle Spinek, soutient Jean Hus, trop sympathique sans doute, et le pouvoir royal aussi, soutient avec le roi Venceslas. Et donc, c'est le succès pour Jean Hus. En 1406, il est nommé chapelain de la cour et confesseur de la reine. Ce qui montre que vraiment, là, il devient un personnage à Prague. Il s'intéresse à divers sujets, il a aussi écrit par exemple pour réformer l'orthographe de la langue tchèque. Il a une influence rayonnante. En 1408, un synode du clergé de Prague interdit de prêcher contre les abus de l'Église, mais Jean Hus n'en tient pas compte, il prêche d'autant plus vigoureusement. Malheureusement, ces années favorables vont avoir une fin. En 1409, il y a une première crise, alors il est encore relativement abrité, lui, mais à cause de la dispute des papes, trois papes, pour lesquels prendre parti. Il y a un désaccord entre l'université, qui, pour attirer des étudiants et des professeurs allemands, leur a donné la majorité, et le roi. Il ne soutient pas le même candidat pape. Et du coup, le roi décide de donner la majorité aux Tchèques à Prague, à l'université de Prague. Du coup, les Allemands furieux quittent l'université de Prague et vont fonder l'université de Leipzig. C'est l'origine d'une autre université. Et ils sont en général beaucoup plus proches du pouvoir pontifical. Ils sont contre Augustin. Et résultat de cela, pour une année, Jean Hus est nommé recteur de cette université de Prague. Malheureusement, l'évêque, pour des raisons sans doute liées aussi au soutien des papes et peut-être d'autres, et peut-être simplement la jalousie, se retourne contre lui et fait fermer la chapelle de Bethléem. Ça, c'est les premières mesures anti. Et puis, à partir de 1410, les choses vont se corser en 1412, Jean XXIII, le pape de Pise, l'un des trois, mais celui qui a le plus d'énergie, semble-t-il, décide de lancer une grande vente d'indulgences pour remplir ses finances. Et pourquoi remplir ses finances ? Parce qu'il veut décréter une croisade, surtout contre le royaume de Naples, qui soutient le pape de Rome. Vous voyez ? Alors, vente des indulgences, Jean Hus prêche contre. Oui, mais le roi touche un pourcentage. Et du coup, le roi lâche Jean Hus. Et Jean XXIII l'avertit, excommunie Jean Hus, et même place Prague sous interdit si Jean Hus continue d'y résider. Et là, le roi le lâche, il est obligé de quitter la capitale. Il va se réfugier dans divers châteaux, surtout dans le sud de la Bohême. Il continue d'être très populaire. Il continue d'écrire. Il achève une traduction de la Bible, lui aussi. Traduction de la Bible en tchèque. Et il écrit divers livres qui reprennent en gros les thèses de Wycliffe. Oui. La situation, donc, est une situation troublée, avec des pouvoirs qui s'équilibrent quelque peu dans ce pays de Bohème, qui est relativement excentrique par rapport à la chrétienté d'alors. L'empereur Sigismond, qui est un demi-frère du roi de Bohème et qui doit lui succéder normalement quand celui-ci mourra, il n'a pas d'enfant, l'empereur Sigismond convoque le concile de Constance, comme je vous l'ai dit. Et il a un grand désir de régler la situation à Prague. Jean XXIII est très furieux de ce qui se passe à Prague, et bien sûr, parce que le pouvoir pontifical est attaqué, Sigismond décide de convoquer Jean Hus à Constance avec un sauf-conduit impérial garantissant sa sécurité, sa vie, qu'il rentrera dans de bonnes conditions en Bohême. Et Jean Hus décide d'y aller. Alors, il ne se fait peut-être pas trop d'illusions quand même, parce que il écrit qu'il est prêt à affronter la mort. Et il écrit « Le roi des rois, souverain de tous les souverains, s'est humilié pour supprimer notre mort par la sienne. » Vous voyez, c'est le message qui est le sien. Il se rend, il arrive début novembre, à Constance. Mais il ne reste libre que pendant 3 semaines. des cardinaux lui tendent un traquenard, l'invitent à venir discuter avec eux, et on se saisit de lui, il est emprisonné. Il est emprisonné dans le donjon, dans le couvent des Dominicains, et il va y passer d'abord plusieurs mois. Alors, c'est les conditions de captivité, dur, mais en même temps, ces geôliers le laissent écrire, et il écrit plusieurs livres pendant cette captivité. Et comme il est quand même reconnaissant à ces geôliers, les frères dominicains, de l'avoir laissé écrire, il va leur dédier ses livres, en tout cas plusieurs de ses livres, y compris un livre sur le mariage chrétien. Ça fait partie des choses étranges de cette histoire. Mais au printemps, son procès commence. Son procès qui sera présidé par Pierre Dailly, le cardinal théologien français, avec Gerson qui est présent. On ne laisse pas parler, on l'accuse, on lui semble de se rétracter. Il dit qu'il veut bien se rétracter si on prouve par l'écriture qu'il a tort. Et bien sûr, on écrase cela. Et finalement, en présence de Sigismond, il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Sigismond est embarrassé, c'est sûr. Sauf conduit impérial, qui est violé de cette façon. Mais Sigismond, d'une part, est un trône impérial très très fragile et précaire. Le trône impérial est encore soumis à élection à l'époque. Et il n'est pas obéi dans beaucoup de parts de cet empire. Il n'y a pratiquement que la Hongrie qui le soutient vraiment. Donc, et puis il espère que ce concile de Constance va lui donner quand même autorité, puisque c'est lui qui l'a suscité. Or, on le menace de faire cesser le concile s'il ne laisse pas condamner Jean Hus. Alors il espère. Et Jean Hus est conduit sur le bûcher le 6 juillet 1515. 1415. Donc, il est admirable. On lui a mis une couronne où sont dessinés des diables. Et il dit, mon sauveur a porté une couronne qui lui faisait plus mal encore. Et il monte sur le bûcher et ses dernières paroles audibles sont « Seigneur Jésus, aie pitié de moi. » Un témoignage parfait jusqu'à la fin. Et il sera suivi par le martyr semblable de Jérôme de Prague, son ami. Son ami, imprudemment, est venu le rejoindre à Constance avec une supplique à Sigismond, à l'empereur, lui rappelant sa promesse. Jean-Louis avait dit « Non, ne viens pas. » C'est trop dangereux, mais il est venu, et il a été coffré aussitôt. Et en 1516, moins d'un an après, c'est à son tour de monter sur le bûcher. Et lui aussi, il rend un témoignage parfaitement fidèle jusqu'au bout. Vraiment remarquable. On cite souvent une parole qu'il a prononcée de son bûcher. Il voit une pauvre femme qui apporte un fagot pour ajouter au bois qui va brûler pour le brûler lui. Et il dit Sancta Simplicitas. Cette pauvre femme, elle est simplement égarée par l'enseignement des puissants. Et elle a une piété toute simple, elle croit qu'ils ont raison, que c'est un hérétique qu'il faut brûler. Et lui, Jérôme, donc, s'écrit Sainte Simplicité. Et nous ne voulons pas non plus la condamner. On a gardé cette parole de Jérôme de Prague. Alors, quant au message, très peu de différence entre Wycliffe et Jean Hus et Jérôme de Prague. Je pense qu'il y aurait peut-être une différence par rapport à l'aspect social et populaire. Jean Hus, issu du peuple, en a le souci encore davantage. Et puis, il va rester comme une figure de la bohème, de ce peuple, ce que Wycliffe n'a pas été autant, en tout cas. Donc c'est... Alors, lors de son procès, il a affirmé ne pas nier la transsubstantiation. D'après les historiens, on ne se rend pas très bien compte. Peut-être n'a-t-il pas été aussi loin que Wycliffe, dans la lucidité sur ce point précis, mais il faut hésiter. Et en tout cas, les Hussites après lui, les Hussites les plus fidèles, eux, alors, étaient parfaitement wikifiques sur ce point, parfaitement au clair. Ça, c'est certain. Le grand drame, c'est que ces Hussites ont été persécutés ensuite. Par l'empereur Sigismond, devenu roi de Bohême en titre en 1419, et par le pape Martin V, qui leur en voulait aussi beaucoup, donc ils ont été immédiatement persécutés. Pendant un premier temps, ils se sont organisés, ils avaient suffisamment de soutien populaire et de jeunes petits seigneurs de leur côté pour résister, pour mener une guerre de guérilla contre les troupes impériales. Malheureusement, ils se sont divisés. Et là, de nouveau, c'est une grande leçon de l'histoire. Il y a eu les Calixtins qui n'ont gardé pratiquement du schisme que la communion sous les deux espèces, c'est-à-dire distribuer aussi la coupe au final. Et les autres radicaux se sont appelés les Taborites parce qu'ils se sont réunis autour d'une montagne qu'ils ont appelée le Tabor. Ces Taborites, finalement, ont été vaincus par l'alliance des Calixtins avec les catholiques romains. Là, c'est une défaite très très dure. Alors, il est quand même resté un groupe qui ne s'est pas simplement réinséré dans l'Église romaine, qui a constitué l'unité des frères de Bohême, qui a subsisté et qui a salué la réformation de Luther. Là, il y a eu une réunion au siècle suivant. Mais en ce qui concerne quand même la suite immédiate de l'œuvre de Jean Hus, on peut constater avec tristesse cette division de ceux-mêmes qui avaient été touchés par son message. Alors, je conclue par trois remarques. Je suis juste, je pense, en temps. C'est sur deux points principalement que Wycliffe et Hus ont préparé la réforme. L'autorité de la Bible, exclusive, capable de juger l'Église, et l'Église comme communion des fidèles, et non pas comme grand appareil de pouvoir. C'est sur ces deux points, sans doute, ils ont le plus préparé ce que nous avons vu et que nous allons voir au XVIe siècle. Deuxième remarque, un facteur qui a joué beaucoup et qui va jouer aussi au XVIe siècle, bien qu'on en parle assez peu, c'est la conviction d'être à la fin des temps. Le pape et l'Antichrist, c'est vraiment le temps du paroxysme de la persécution, de la grande tribulation, mais le Seigneur va revenir tout de suite. Maintenant, c'est immédiatement qu'on va le voir. Cette conviction a certainement beaucoup joué. Et elle nous avertit contre la tentation de croire, et elle a été celle de beaucoup d'époques, que nous pouvons prédire la date. Et ils n'ont pas fait de calcul de date quand même, mais c'était une conviction qui a joué un grand rôle. Et troisième remarque, ils ont eu le sens que saint Augustin avait exprimé de la grâce de Dieu. Et dans ce sens, ils ont vraiment redécouvert l'Évangile. Wycliffe a été docteur évangélique. Mais ils n'ont quand même pas compris la justification par la foi seule. Le grand renversement, pas par les œuvres, par la foi. Ça, ils ne l'ont pas compris. Ça a été l'insuffisance que, dans mon introduction, je signalais. Je pense que ça a pu jouer aussi, d'ailleurs, pour affaiblir, malgré tout, leur témoignage. Parce que la grâce telle qu'il la concevait n'est quand même pas cette pure grâce qui renverse tout, qui est la grâce que Luther et Calvin nous ont fait recouvrer dans la lecture de la Bible. Là, il faut reconnaître que leur œuvre de pré-réformation n'a été que pré, et pas encore la réformation plus centrale encore. Voilà les remarques que je peux faire à propos de ces deux témoins fidèles. Okay. Thanks.